Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Je m'appelle Jérémy, je suis étudiant en relais égalité sur le campus de Saint-Martin-d'Air à l'Université Grenoble-Alpes et je suis accompagné de Zoé.
Bonjour.
Bienvenue sur l'émission qui va parler du sport et du handicap. Aujourd'hui, j'ai pour invité Virgile et Jules qui viennent de l'association Polyred et aussi Antonin et Rémi du bureau des étudiants de la filière STAPS. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Est-ce qu'on peut commencer par un petit tour de table pour vous présenter et puis pour présenter vos associations ?
C'est Virgile, je te remercie déjà de nous avoir invités et puis merci à Radio Campus de nous accueillir. Moi je suis président de l'association Polyred et avec moi j'ai Jules qui va se présenter aussi.
Donc bonjour à tous, moi c'est Jules et je suis membre du Polyred également et responsable du pôle Handi.
Et salut, du coup moi c'est Rémi, président de l'association, enfin, du BDE STAPS Grenoble, et là du coup en tant que référent sur le projet JNSH 2026 avec Antonin.
Ouais, donc bonjour à tous, Antonin, membre du BDE STAPS aussi, et je fais partie du coup du pôle innovation sociale du BDE STAPS, et pareil du coup sur l'organisation de la JNSH avec Rémi.
Trop bien.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos assos, de comment, quand est-ce que vous les avez rejoints, de un peu pourquoi? Qu'est-ce qui vous motivait dans, pour vous, Polyred, rejoindre Polyred et vous être au BDE et s'engager au BDE à STAPS?
Oui, alors pour ma part, l'asso du Polyred, je l'ai rejoint l'année dernière. Quand on s'engage dans le Polyred, c'est sur 2 ans. C'est une asso un peu spéciale parce qu'elle a été créée dans le cadre de nos cours à Polytech Grenoble, dans notre école d'ingénieurs. Et elle a été créée par... un besoin, mais aussi une attention assez particulière des étudiants envers toute la thématique des handicaps. Et elle a été créée il y a 10 ans, exactement cette année. Donc c'est un peu spécial pour nous aussi. Je vais laisser Jules peut-être continuer un peu.
À l'inverse de ce qu'a dit Virgile, moi j'ai rejoint l'association cette année et pour une seule année. C'était un peu particulier parce qu'il manquait un petit peu de monde, donc il fallait venir soutenir. Et du coup, moi, je voulais m'engager pour l'école. Et comme le sport, c'était ma passion, le Polyred, c'était un peu l'association emblématique de l'école vis-à-vis de ça.
Et moi, du côté du BDE, l'idée de l'association, c'est de représenter les étudiants du coup, de la filière STAPS. Hein. Mais là, aujourd'hui, on est là plus précisément pour présenter le projet de la JNSH. Et du coup, on est sur un événement qui... On est à sa 14e édition. Et en fait, c'est une journée nationale. Parce qu'au début, elle est née... je crois que la première édition était à Nice. Et c'est porté par l'ANESTAPS, du coup. Qui fédère un petit peu toutes les associations STAPS en France. Et du coup, nous, ça fait plusieurs années qu'on la reprend sur le territoire. Et là, cette année, on a essayé de mettre un peu le paquet pour faire quelque chose de vraiment sympa, donc c'est cool. Puis on a une bonne équipe avec Antonin et des gars motivés.
Oui, carrément. Du coup, moi, pour ma part, c'est la première année que j'œuvre dans une association étudiante comme celle-là. C'est vrai que pour moi, c'était un peu comme quelque chose d'évident. J'ai toujours œuvré en associatif. Et pour moi, ça a été quelque chose, pas d'obligatoire, mais vraiment qui me tenait à cœur de rentrer dans une association comme ça. Et grâce un peu à Rémi aussi, on a pu déjà mettre de projets super cool en place cette année, donc comme les November, le cancer du sein, du coup, Octobre Rose et tout. On a fait déjà des super projets. Et justement, du coup, on est venu aussi parler un peu de ce projet-là, de la JNSH avec Rémi aujourd'hui.
Trop bien. Bah, c'est super parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à l'université. Ce mois de mars, c'est effectivement un mois qui est désigné comme le mois de l'égalité par l'université. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de créer cette émission spécifiquement sur le sport et le handicap. J'avais rencontré Virgile et Jules à un apéro des associations au mois de janvier ou février. Et c'est comme ça que je me suis dit que c'était un sujet super important à amener dans une émission radio. Et donc, dans ce cadre du mois de l'égalité, il y a beaucoup d'événements qui sont mis en place, notamment des événements que vous avez organisés. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse maintenant un peu les présenter un peu plus en détail et puis dire où vous en êtes dans l'organisation et à quoi s'attendre.
Alors pour le Polyraid, c'est un événement handivalide, donc c'est un raid qui est décomposé avec plusieurs sports. Il y a du canoë, il y a du run and bike, il y a du tir à la carabine laser, de la course d'orientation et du trail. Pour notre asso, ça sera organisé, enfin l'événement principal sera organisé le 26 mars sur la place Veil. Et on est sur la fin des préparations et on est plus que prêt à accueillir tout le monde. Avec plaisir. Je vais laisser peut-être Jules parler un petit peu des parcours en handi sur la place.
Le Polyraid, en fait, il se compose de 5 parcours différents. Donc 3 qui sont marqués comme compétitifs et 2 qui sont non compétitifs. Donc les 5 parcours sont labellisés accessibles. Mais on recommande pour les personnes handi le parcours du coup handi et le parcours vert, qui seront les plus adaptés. Et du coup, moi, je m'occupe du parcours handi. Donc, en fait, ce sera c'est des activités qui sont mises en place sur la place Veil. Donc, globalement, c'est des sports handi du type Cécile Foot, Goalball, handi basket, handi rugby, des choses comme ça.
Très bien. Et donc, c'est des parcours différents.
Exactement, oui, c'est ça.
Et donc, chaque année, on a Handi Réseau 38, l'association qui nous est en partenariat avec nous pour la communication, qui ramène des personnes des centres, des personnes des centres des handicaps. Voilà, qui ramène des personnes pour faire les activités sur la place Veil et surtout pour rencontrer aussi des personnes valides, si je peux dire, pour échanger avec eux et surtout pour les aider et les accompagner.
Moi, j'ai une question. Est-ce que ça concerne uniquement le handicap physique ou ça traite aussi les handicaps mentaux ?
Alors, non, parce qu'en fait, oui, donc ça ne concerne pas que les handicaps physiques. Les jeunes qui arrivent de centre chaque année, ils ont différents handicaps. Il y en a qui en ont plusieurs, mentaux, physiques. Alors, c'est sûr que pour les personnes qui ont des handicaps un peu lourds, c'est plus compliqué de se déplacer sur un événement. Mais en général, on a vraiment une grande variété de handicaps, si je peux dire. Et surtout, c'est très enrichissant pour nous parce que ça nous permet d'échanger avec eux et de les aider aussi sur toutes les activités qu'on a préparées tout au long de l'année.
Je pose la question parce que notamment, moi personnellement, quand je pense sport et handicap, la principale représentation que j'en ai, c'est vraiment du handicap physique. Donc, par exemple, le Cécile Foot, ça va plus être ce genre de représentation-là du handicap dans le sport. Donc, je trouve ça important aussi d'avoir une représentation pour les handicaps mentaux.
Oui, alors, effectivement, et en plus de ça, les handicaps physiques, c'est, je dirais, c'est même pas 5% des personnes qui viennent pour notre événement. C'est surtout des personnes en situation de handicap mentaux et qui viennent pour pouvoir s'aérer, pour pouvoir bouger. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué ce genre d'événement, puisque ça dépend beaucoup de la météo aussi. Les personnes en situation de handicap sont très sensibles à ça, et ça peut être un des freins aussi pour le jour du raid.
Très cool.
Et pour vous, votre événement qui est un peu plus proche que le 26,
ouais.
Parce que on spoil, mais c'est demain.
Exactement, ouais, nous on est sur la fin de l'orga, vraiment c'est tout proche, c'est demain du coup de 9h à 17h. Donc du coup notre événement, nous c'est la JNSH, c'est un événement du coup national pour le coup, donc la journée du sport et la journée nationale du sport et handicap, du coup qui est portée notamment par la NeSTAPS, une association qui nous représente nationalement tous les B2 de STAPS en France. Donc nous, du coup, on va rassembler du coup plusieurs acteurs du monde du sport et du handicap, notamment des acteurs associatifs, donc des associations de sport associatifs, notamment pour le handisport, et d'autres acteurs divers afin de pouvoir promouvoir du coup le sport et le handicap. Du coup, ça sera sur la place des Dimiers qui est juste devant nous à l'Amphiveille, donc à l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes. On va avoir notamment du coup des projections aussi de films, notamment d'Oscar Burkman, qui est un para-athlète du coup qui était à Cortina il y a même pas du coup 3 jours. Qui a fait de super résultats. Et voilà, donc on a beaucoup, beaucoup d'acteurs, mais je vais laisser du coup Rem parler de ces acteurs, notamment qu'on a contactés.
Ouais, l'idée de la journée, c'est de faire en fait un grand parc, un petit peu découverte, sensibilisation et mise en avant des pratiques handisport. L'idée, c'est de permettre à toutes et à tous de venir découvrir, en fait, qu'on soit valide ou pas. En fait, être valide et conscientiser que les pratiques handisport, c'est vraiment du sport, ça peut être amusant et ça peut se jouer, qu'on soit valide ou pas et qu'on puisse mixer les publics. Ça ouvre quand même beaucoup l'esprit des gens à ce niveau-là. Et souvent, à la fin de la journée, on a plein de sourires, mais tout le monde s'est amusé, en fait, peu importe le profil. Et c'est ça qui est génial. Nous, on fait ça aussi pour que les gens puissent s'amuser. On a un fond de sensibilisation et de... Voilà, mais c'est des... En fait, rien que le sourire sur la tête des gens à la fin de la journée, ça nous régale. Et du coup, pour ça, on a besoin de matériel, on a besoin de professionnels aussi qui savent du coup encadrer ces pratiques. Et donc pour ça, on bosse avec le comité handisport, on bosse avec le SUAPS, la FFSU, tous ces acteurs du milieu du sport et du parasport sur le territoire qui nous permettent du coup de faire vivre cet événement. Et cette année, le gros du projet, c'était de mettre en place des tables rondes, donc pour discuter autour des thématiques importantes en lien avec du coup le handisport. Et donc on en aura deux à animer entre 13h et 15h. La première sera autour de la performance et donc du coup, quelle place a la performance dans le sport handicap. Et donc du coup là, on accueillera deux athlètes. Olympique, enfin du coup paralympique, qui était présent aux Jeux Paras de Sochi en 2018 et 14. Et alors c'est peut-être pas Sochi, du coup je dis peut-être des bêtises. Et on a David Smetanin qui lui était au dernier jeu et qui sera là aussi pour animer cette table. Et on en aura une deuxième autour plutôt des enjeux de santé mentaux des étudiants et donc quelle place le sport peut avoir du coup à ce niveau-là. Donc ça, c'est trop cool. Et puis, du coup, comme il disait, la projection du film dans l'Amphiveille, donc ça risque d'être vraiment très sympa. Et on a mis un peu le paquet sur cette année, donc voilà.
C'est de quelle heure à quelle heure ?
Les projections, il y en aura une qui aura lieu à 14h et la deuxième à 16h. Si on a le temps, on en tirera une dernière à 17h, mais ça va dépendre de comment ça se passe, si on prend du retard ou pas.
Mmh. Ok. Voilà. Et je vais poser aussi la question qui tue. Pourquoi pour vous, c'était important de vous impliquer dans le handicap, dans le sport, par rapport, parce que, je pense pas que vous avez une obligation de vous impliquer pour le handicap. Pourquoi est-ce que pour vous c'était important ?
Ouais, carrément. Faut dire que moi, depuis tout le temps, j'ai été baigné dans le sport, notamment le ski, beaucoup de ski. Et du coup, d'ailleurs, quelqu'un comme Oscar, avec qui on va projeter le film demain, quelqu'un du coup qui est devenu para-athlète suite à un accident. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, du coup, mine de rien, parce que j'étais beau dans son cercle relativement fermé de gens qu'il connaissait très bien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, notamment aussi ma mère qui a beaucoup œuvré pour le sport handicap, notamment le handiski. Et du coup, j'ai toujours été baigné dans ce sport et handicap, pas que physique, aussi mentaux, du coup. Et c'est vrai que quand, du coup, Rem m'a donné l'occasion de pouvoir un peu être co-organisateur avec lui, du coup, de cet événement, j'ai direct accepté parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est cool, on a vraiment fait ce qu'on a pu et l'event il va être trop bien. Je suis trop content d'avoir fait ça, donc voilà.
Ouais, et je me permets de rajouter, du coup, moi de mon côté, l'association, le BDE STAPS, ça a souvent eu une connotation de, tous les BDE, en fait, de manière générale, d'associations très festives qui permettent eh ben, du coup, aux étudiants de s'épanouir dans leur vie étudiante. Mais depuis quelques années, ça change et on a, nous, cette année, essayé de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est projet d'innovation sociale et donc, du coup, comment impacter bah, positivement la vie des étudiants, de toutes et tous, peu importe les différents freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur scolarité, dans leur vie étudiante. Et tout ça, ça permet, enfin, bah, du coup, on réfléchit un peu différemment à nos événements et l'idée, c'est de permettre vraiment que ça soit très accessible. Et bah, du coup, on parle beaucoup d'inclusion. L'idée, c'est vraiment que. Que nos événements puissent servir à toutes et à tous. Et là, demain, au lieu de juste penser aux STAPS, comme on a tendance à le faire d'habitude, on s'ouvre vraiment à tout le public estudiantin grenoblois. Et voilà. Et plus largement, si on parle, si on parle du handicap, moi, je me suis orienté dans la filière activité physique adaptée santé, donc qui est un débouché de STAPS. Et l'idée de cette filière, c'est d'adapter, enfin, comment adapter la pratique sportive pour pouvoir permettre à toutes et à tous de pratiquer. Et on se rend compte de plus en plus que ben, le sport, c'est pas juste un outil pour prendre du plaisir, pour être en bonne forme physique, mais ça joue aussi sur la santé mentale, ça joue aussi sur l'inclusion sociale. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de leviers via le sport. Ça nous a juste motivés. Et cette année, on a mis un peu le paquet là-dessus. Et on se rend compte que ça marche de mieux en mieux. Les étudiants se sentent de plus en plus intéressés aussi par ces sujets-là. Donc voilà, c'est un peu l'idée et la genèse du projet.
Super. Moi, ce que je retire un peu de vos interventions et de l'organisation de vos deux événements, c'est la dimension que vous voulez... Mixer les publics, et j'ai l'impression que vous voulez créer des rencontres pendant ces événements. Est-ce que j'ai visé juste et est-ce que ça a eu de l'importance dans l'organisation de tout ce que vous avez fait pour ces événements-là?
Oui, c'est sûr que c'est super important et puis déjà ça commence rien qu'à l'échelle du bureau et des participants, des personnes qui organisent. Déjà juste ça crée des rencontres à partir de là. Et le plus important, c'est que le jour J, les gens puissent venir et découvrir un peu d'autres personnalités, d'autres types de handicap auxquels ils ne sont pas forcément confrontés ou auxquels ils ne pensaient même pas que ça pouvait exister. Il y a vraiment une idée de sensibiliser les gens à ça et de les faire se rencontrer. Voilà. Mmh.
Et c'est vrai que du coup, depuis ces dernières années, on constate que les gens sont de plus en plus motivés à venir à ce genre d'événement, pas forcément pour faire le raid, la partie compétitive, mais juste pour faire les petits parcours et puis même accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc cette année, nous, on a organisé carrément une sorte de petit questionnaire pour savoir si les gens voulaient juste venir accompagner les personnes en situation de handicap. Et on a eu déjà pas mal de réponses positives. Donc c'est vraiment une belle avancée, je trouve, et c'est super... pour l'inclusion de ces gens dans la société.
Oui, nous, complètement, ça a été carrément la même idée. Du coup, le fait de mettre un village partenaire en plein milieu de l'université, c'était vraiment pour que tout le monde puisse rencontrer du coup, tous ces acteurs qui sont vraiment très importants dans le monde du handisport. Le fait de pouvoir vraiment être en plein air, que tout le monde puisse voir. Et en fait, ils n'iront pas forcément sur un événement comme ça. Et le fait vraiment d'être en plein milieu de l'université où tout le monde passe... des gens qui connaissent pas forcément du coup, qu'ils savent pas vraiment que l'événement est prévu pour demain, ils vont y passer, ils vont dire qu'est-ce que c'est, ils vont le découvrir, et c'est vraiment ça qu'on voulait toucher. On voulait toucher un maximum de monde, et vraiment qu'ils viennent d'eux-mêmes pour pouvoir vraiment découvrir ce que c'est, ou en apprendre un peu plus. Voilà.
Ouais, et puis pour ajouter à ce qu'a dit Antonin, l'idée de mettre ce village en plein milieu de l'université, en fait, on conçoit pas que le handisport évolue dans son coin en parallèle des pratiques pour les valides. En fait, on voit ça un petit peu différemment. De notre côté, on se dit que vraiment, pour que le handisport se développe, pour qu'ils aient plus de visibilité, plus de moyens, qu'on flèche de l'argent dessus, en fait, il faut qu'on les considère comme faisant partie d'un tout, que ce soit sport pour valides ou non. Et pour ça, en fait, rien de mieux que mixer les publics, parce que moi, dans cette journée-là, j'accorde autant d'importance au fait que les personnes en situation de handicap puissent se rendre compte qu'il y a des pratiques faites pour eux et qu'ils puissent se sentir inclus dans un collectif et sentir qu'ils peuvent faire partie d'un groupe, qu'au fait de mixer les publics et montrer aux valides qu'il y a moyen de prendre du plaisir, que le handisport, bah, c'est vraiment du sport. Moi, le nombre de personnes que j'ai vues l'année dernière être épuisées à la fin d'un match de 10 minutes de handibasket, enfin, c'était impressionnant, parce qu'en fait, on est bah, physiquement, du coup, on n'est pas forcément habitué. Et du coup, derrière, les regards changent très vite et on a énormément de retours positifs à ce niveau-là. Et ouais, l'événement, il est réfléchi comme ça, il est pensé pour toutes et tous. Et tout le monde, en fait, s'instruit l'un l'autre et c'est un peu ça la force du projet.
Mmh. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un événement justement qui est pensé pour toutes et tous? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte?
Ouais, carrément. C'est un petit peu l'enjeu aussi. Et le risque, c'est que penser pour toutes et tous, ça veut dire bah, réfléchir aux différentes problématiques que chacun pourrait rencontrer. Et pour ça, on essaye de faire au mieux. C'est aussi pour ça qu'on rend, enfin, on est sur de la découverte et de l'initiation. Déjà, on tend pas, enfin, on projette pas de faire des compétitions de haut niveau, tout ça. L'idée, là, c'est de montrer ce qui existe, ce qui n'existe pas, et d'essayer de permettre à un maximum de monde de pouvoir faire partie de l'événement. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à toucher tout le monde. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont bloqués chez eux et que, bah, en proposant ça sur le campus, il faut se déplacer, tout ça. C'est pas forcément pratique. Après, on est aussi une association étudiante, on fait avec les moyens qu'on a, et on essaye de faire au mieux pour, bah, pour promouvoir et porter les valeurs qu'on a en nous, en fait. Mais il faut aussi se dire qu'actuellement, sans les associations, que ce soit étudiantes ou non, hein, le handisport ne serait pas là où il est. On voit la visibilité qu'il a eue avec les Jeux Para, mais si on attend tous les 4 ans pour que ça bouge, c'est compliqué et nous on a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là et donc du coup on fait vraiment de notre mieux pour jouer notre carte en fait.
Et oui, je voulais juste rajouter une petite chose sur le public qu'on a, parce que nous pour le Polyred c'est pas forcément, enfin même c'est pour une très petite part des sportifs, nous on est axé sensibilisation pour les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Et en fait, les gens qui viennent le jour du raid, qui sont en situation de handicap, ils sont surtout là pour participer aux activités et pas forcément pour faire les parcours directement. Et c'est ce fait de laisser le choix aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent qui peut être super. Et ça leur laisse vraiment la pleine découverte de toutes les activités qu'on leur propose. Et ils peuvent s'arrêter quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et c'est surtout ça qui est important pour eux, je pense.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et puis après on va faire une de nos animations créées par Jérémy avec brio. Et on vient d'écouter Blue Wednesday, comme la première chanson d'ailleurs, parce qu'on aime beaucoup Blue Wednesday ici. On a écouté Introvert. Et je vais laisser Jérémy présenter la petite animation qu'on va faire maintenant, notre émission.
Très bien. Merci Zoé. Alors j'ai préparé un petit quiz pour vous, avec des statistiques que j'ai trouvées. Alors pour les auditeurs, il faut que tout le monde sache que... Alors je fais des études pour devenir professeur des écoles. Et j'ai pas mal de ressources par rapport à ça. Et notamment des petites statistiques sur le handicap. Donc mes questions sont un peu axées sur le domaine de l'école, mais elles sont accessibles à tout le monde. Donc on va commencer et puis on va voir où ça mène.
Accrochez-vous, il y a quelques chiffres.
Exactement. Alors, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans le panorama sur le handicap de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques qui ont été publiés l'année dernière. Donc c'est très récent. Et on pourra en discuter justement du fait que c'est très récent, ces statistiques. Alors, première question, sur l'année scolaire 2023-2024, à votre avis, combien d'enfants de l'enseignement primaire, c'est-à-dire donc en maternelle et en élémentaire, donc de la petite section jusqu'au CM2, combien d'enfants bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation qu'on appelle PPS ? C'est un projet. Alors, un projet personnalisé de scolarisation, c'est une adaptation justement de la scolarisation de l'enfant en lien avec son handicap. Est-ce que c'est environ 20 000, environ 50 000, environ 100 000 ou environ 200 000 ?
On a une idée de la base de population qu'on étudie avec ces chiffres.
Alors, qu'est-ce que tu entends par base de population ?
C'est-à-dire, là, on est sur des valeurs, mais on n'est pas sur des pourcentages. Du coup, c'est dur de se projeter.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et alors, pour pas vous l'idée dans la réponse, je préfère rien vous dire pour l'instant.
Ok. Ouais. Donc, c'est soit 50, non, 20, 50, 100, 20 000, 50
000, 100 000, 200
000. Ok.
Ah, c'est dur, on n'a pas révisé là, donc.
Ouais.
Alors, on est un peu sec là.
C'est pas un test, hein.
Ouais.
C'est pas noté, ouais.
Non, c'est pas noté.
Nous, on se lance, on dirait 50 000. 50 000, je pense.
D'accord.
Ouais, nous, 20, nous on prend pas de.
50.
Ouais, on tente 20, nous.
20 000 ? Eh ben, c'est plus de 200 000 en réalité. Selon les chiffres, c'est 235 400. Ce qui, alors sur l'année 2023-2024, il y avait 6,2 millions d'enfants qui étaient scolarisés dans l'école publique. Donc ça représente bien à peu près 3% des enfants qui bénéficient d'un parcours personnalisé de scolarisation. Donc c'est un chiffre qui est... Alors on pourrait se dire 3%, c'est pas forcément beaucoup, mais ça fait quand même 235 000 enfants qui sont concernés par ces situations-là, dont on ne parle pas tout le temps, le handicap. Et ça reste quand même un sujet qui est pas souvent visibilisé, mais qui touche beaucoup, beaucoup d'enfants.
Et c'est ceux qui ont le... qui bénéficient du projet personnalisé, parce qu'en réalité, il y a plus de gens en situation de handicap qui n'ont pas forcément d'accompagnement scolaire.
Exactement. Et c'est bien le cas. Il y a beaucoup de temps de latence et de délai dans la prise en charge, des fois médicale, ou administratif de ces enfants-là. Donc, c'est un chiffre à considérer parmi tant d'autres, en réalité, ce chiffre-là.
Ouais, il est un peu difficile à analyser, parce que si on regarde des fois à l'échelle d'une promo, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pourraient avoir besoin des fois d'adaptation. Et ça dépend du coup ce qu'on entend par, là, dans ces 3%, à quel niveau on met le curseur de celui-là, il a besoin, celui-là, il n'a pas besoin. Et c'est là que c'est compliqué.
Totalement.
Et est-ce que tu aurais une idée par hasard de combien par classe en général ?
Eh bien, alors combien par classe, je pourrais pas dire, non.
En moyenne,
mais ça ferait.
J'aurais tendance à dire un ou deux.
Ça doit faire
facilement.
En fait, c'est ça, exactement, dans les un ou deux. Ouais, au moins, en moyenne, ça ferait un par classe, ouais, c'est ça, ouais.
Tu m'as lancé un regard de détresse, je n'en sais pas plus.
Là, j'ai essayé de faire le calcul avec deux statistiques que j'avais en tête, donc ça doit faire un par classe. Dans une classe de CM2, ça veut dire, dans une classe de CP, il y a sûrement un élève qui bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation pour son handicap, et on ne s'en rend pas forcément compte, des fois, c'est des handicaps invisibles, justement. Mais la deuxième question va peut-être vous aider pour analyser le premier chiffre. En 2022, combien d'étudiants en situation de handicap, donc de personnes en situation de handicap, suivaient des études supérieures ? Est-ce que c'est plutôt environ 50 000, environ 100 000, environ 200 000 ou environ 300 000 ?
Ah, dans le supérieur.
Waouh !
Ça réfléchit, ça chuchote. J'entendais les petits chuchotements de la réflexion.
Donc là, on est sur la base de ceux qui avaient déjà des aides dans le secondaire ?
Pas forcément. C'est des personnes qui sont reconnues comme en situation de handicap, qui n'ont pas forcément bénéficié d'un parcours personnalisé de scolarisation.
Ok.
Ça veut dire qu'entre-temps, entre l'enseignement primaire et les études supérieures, il peut y avoir... un nombre qui a augmenté.
On peut reconnaître.
Parce qu'il y a eu des reconnaissances de handicap, collège, lycée, par exemple.
Après, à l'inverse, du coup, tout le monde ne va pas forcément dans le supérieur après, donc.
C'est pour ça.
Forcément, on pose la question. Du coup, nous, on va redire la même chose, on va redire 50 000. Mmh. Ah, c'est beaucoup.
200. Ouais. Allez, nous, on part sur 200 000 alors.
Sur 200 000.
Ouais.
Bon, la réponse, c'est 59 000.
On est mauvais. Hein.
Bah, entre,
c'est pas noté.
Entre les 235 000 enfants de l'école primaire et puis seulement les 59 000 étudiants, il y a une baisse drastique entre les deux. Et qui, selon moi, n'est pas forcément seulement due à juste... Il y a moins de personnes qui vont dans le supérieur. Quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins. Il y a moins d'orientation en supérieur, mais il y a aussi une baisse en termes de disqualification, un phénomène qu'on appelle disqualification, c'est-à-dire comme toute autre stigmatisation sociale, le handicap, ça peut pousser à se dire que les études, c'est pas fait pour nous, ou alors dans le milieu étudiant, je me verrai pas survivre, quoi. Donc on se donne nous-mêmes ces idées-là, et ce qui donne des chiffres comme une réduction de 200 000 à 59 000 personnes.
Et est-ce que tu sais si par hasard il y a des gens aussi, enfin si ça prend en compte aussi la difficulté d'avoir ce genre de papier, de PPS? Parce que je sais que moi j'ai des amis étudiants qui ont un peu galéré parce qu'ils n'ont pas été reconnus tout de suite, ne serait-ce que soit l'école ou que soit... je ne sais pas où est-ce que ça se passe, ce genre de demande, mais je sais que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air des fois. Même si on a ce problème, des fois c'est compliqué de le faire reconnaître.
Ouais. Donc,
j'imagine qu'il y a ça aussi qui fait que ça baisse.
Exact. J'ai eu des amis qui... bon, pas pour pas spoiler la question 4, je ne vais pas exactement dire la réponse, mais oui, qui ont des délais de leur reconnaissance. Je réponds déjà à la question, crotte. Bon, voilà, c'est toute une organisation, tout un poids pour ces personnes, donc je ne peux pas parler en leur nom, mais selon moi, c'est sûr qu'il y a toute cette dimension qui se rajoute au fait de devoir... On est tous des étudiants, on est un peu en galère au niveau des sous, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans notre vie des fois quand on entre dans les études supérieures. Donc en plus, on a ça à gérer. Ouais, ça doit faire beaucoup, quoi.
J'ai failli te spoiler une question en te répondant, ouais. Donc je vais me taire. Voilà, je vais te laisser lire la prochaine question.
Tu veux, ou si tu veux la faire ?
Non, vas-y.
Très bien. Eh ben, je fais la troisième question. Parmi les 1,29 million de personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé, AAH, combien en pourcentage ont un taux d'incapacité de 80% ou plus ? Est-ce que c'est 30%, 50%, 80% ou 90%?
Sans trop hésiter, moi je dirais 30.
Mmh. Ouais, donc je pense qu'on les rejoint aussi là-dessus, on va partir sur 30.
Ouais. C'est plutôt 50%.
Ah ouais.
Alors parmi, donc, l'allocation adulte handicapé, c'est un dispositif mis en place par la gouvernance publique qui octroie une aide financière aux personnes qui sont en situation de handicap pour pallier à leurs dépenses qui sont liées à ce handicap-là. Et parmi ceux-là, ils jugent le taux d'incapacité de la personne pour déterminer quelle somme leur est accordée. Parmi toutes ces personnes, il y a la moitié qui ont été désignées comme ayant un taux d'incapacité de 80% ou plus. Donc, c'est-à-dire des personnes qui, au quotidien, doivent galérer quand même de ne pas pouvoir faire les activités du quotidien, se laver, se brosser les dents, manger, tout ça. Et donc, tout ça, ça rajoute au fait de, pour revenir sur la question précédente, quand on a une incapacité comme ça, même si elle est inférieure à 80%, ça impacte toute la vie quotidienne. Et donc, c'est sûr que ça doit être beaucoup plus difficile de se projeter dans les études. L'école primaire, on est tous obligés de la faire, même si c'est pas fun pour tout le monde. Mais les études supérieures, ça devient un choix maintenant. Et si on peut pas se projeter dedans parce que c'est trop dur pour nous, c'est sûr que ça a un impact sur les chiffres qu'on a pu voir dans la question précédente, je pense.
Ouais, et puis là, du coup, je saisis parce que tu nous tends un peu une perche, mais en fait, le sport a tout à fait sa place là-dedans, dans ce que tu dis, et c'est carrément un vecteur d'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. En tout cas, on se rend compte, et les études le prouvent, que pour beaucoup de pathologies maintenant, que ce soit des maladies chroniques ou que ce soit des handicaps physiques, le sport a un rôle. Et il peut être à différents niveaux. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, on observe un peu une même tendance, qui est que le sport affecte positivement en fait, la qualité de vie de ces personnes. Et c'est un peu aussi tout l'enjeu et le pourquoi on est là demain, nous, à présenter ça sur la place centrale. C'est qu'on conscientise tout ça, mais pour beaucoup, le sport, c'est juste un divertissement. C'est juste le mercredi soir avec les copains sur le stade de foot. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça et ça devient un vrai enjeu de santé. Et l'État commence doucement à s'en saisir, mais si on attend qu'il le fasse tout seul, on n'est pas sorti. Donc les associations, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont pris le pas à ce niveau-là. Et donc nous, on continue un peu de faire vivre ça. Et c'est grâce aussi au mouvement associatif que l'État commence à se saisir de ces enjeux-là.
Moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Et puis on a eu des retours un petit peu aussi des associations avec qui on est en contact, qui nous disent que y a tellement peu d'événements. Enfin, maintenant, ça s'améliore, bien sûr, mais il y en avait tellement peu à l'échelle locale qui s'organisaient que dès qu'il y en a un, en fait, toutes les personnes en situation de handicap ont envie d'y aller. Et ça nous permet aussi de pouvoir les rendre heureux, on va dire, et puis leur donner un petit court laps de temps, une après-midi, où ils peuvent mettre de côté tous leurs problèmes.
Ouais. Ça a tellement de valeur, je trouve, de pouvoir faire ça. Et juste de pouvoir mettre un sourire sur le visage des gens, on s'en rend pas compte, mais ça refait des journées, ça refait des vies, quoi, même. Et c'est pour ça que je vous ai invité, d'ailleurs, et que j'ai fait cette émission, dans le cadre du mois de l'égalité, c'est qu'il y a plein d'initiatives étudiantes qui sont tellement importantes à visibiliser et à promouvoir comme les vôtres. Est-ce que, Zoé, je te laisse faire la dernière question, ça te va ?
Eh bien, la dernière question, ça va être quel est l'acronyme qui désigne la décision administrative qui accorde au PSH un droit à des aides spécifiques dans le monde professionnel ? Est-ce que c'est l'AEEH, la PCH, la RQTH ou la MDPH ?
Je pense ne pas trop hésiter là-dessus, je crois que c'est RQTH.
Ouais. Moi, si je devais juste me fier à ce que j'ai déjà entendu, effectivement, RQTH, c'était le seul qui me parlait de près ou de loin. Après, de là à dire ce que l'acronyme... enfin, à définir cet acronyme, je pourrais pas.
C'est effectivement la RQTH, c'est la reconnaissance en tant que... Enfin, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et ça vous permet d'avoir des adaptations dans votre milieu de travail par rapport à votre handicap. Et donc, pour le contexte, la AEEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La PCH, c'est la prestation de compensation du handicap. Et la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et j'ai failli totalement spoil cette question tout à l'heure en disant que ça mettait des plombes, la MDPH, pour les dossiers. C'est très très long. Et les dossiers en eux-mêmes sont très très longs à remplir. Donc, toutes les démarches sont très très longues à faire.
Oui, toutes. Enfin, la RQTH aussi. Je parle d'expérience personnelle pour ma mère qui a galéré aussi de ce côté-là. C'est très long et il n'y a pas beaucoup d'accompagnement.
Non.
Et des fois, l'accompagnement, c'est plus pour te plonger loin de l'aide. Donc oui, c'est jamais facile et c'est important de savoir ce genre de choses.
Et encore, ils ont créé un peu parce que maintenant, il y a des accompagnements qui peuvent vous aider à faire les dossiers. Mais c'est bon. Ah, c'est un peu instable quand même, mais bon, ça existe.
Ouais, c'est triste d'ailleurs de se dire que malgré déjà tous les freins que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer, que ce soit des freins sociaux, que ce soit des freins... lié même à l'enseignement, au milieu scolaire, on se rend compte que même l'administration est un frein. Et c'est assez terrible parce qu'on aurait envie de se dire que c'est justement... l'administration aurait du coup un rôle facilitateur à ce niveau-là. Et c'est pas le cas, en fait. Hein. On s'en rend compte toutes les démarches administratives qu'on doit faire en tant qu'associatif. Et en fait, c'est vrai à tous les niveaux. Et du coup, même pour toute demande de facilitation dans le quotidien pour ces personnes-là.
J'ai un peu écrit cette question-là pour en ayant une réflexion un peu sur mes recherches. Et pour mettre en contexte un petit peu, j'ai une super prof de philo cette année avec qui je discute souvent et on parle beaucoup du langage. Et quand j'ai cherché des informations sur les sites gouvernementaux pour écrire ce petit quiz, et ben, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup d'acronymes pour parler de situations médicales ou pour parler des personnes, quoi. Et d'un côté, je me suis dit que c'était bien de vouloir trouver les mots exacts pour parler des personnes et pour pas les violenter avec le langage. Et d'un autre côté, je me suis dit que ça, de tout le temps se référer à des lettres, il y a un côté un peu déshumanisant, non ? De d'essentialiser à un acronyme ou à une suite dont on connaît même plus la signification des fois. Je sais que j'ai des amis qui ont des RQTH et qui à un moment ne savaient même plus ce que ça voulait dire exactement. Ils avaient fait la démarche auprès de la MDPH et on parle en acronyme et c'est devenu normal. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je voulais faire sur ce quiz.
Non, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec toi que quelque part ça les catégorise un petit peu et ça va un peu. Je comprends que ce soit dans des démarches d'aide, mais du coup quelque part ça vient les catégoriser et ces gens-là, je pense que ce qu'ils veulent, c'est justement pouvoir s'intégrer pleinement dans la société et qu'on les voit pas comme des gens en situation de handicap qui ont des difficultés particulières. L'objectif, c'est que chacun ait des différences, mais qu'on les accepte tous sans forcément se référer qu'à ça.
Ouais, c'est vrai, mais pour revenir un peu sur tout ce qu'on vient de dire, moi, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses ici quand même à revoir sur tout ce plan-là, mais ce que je trouve quand même génial, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place et qu'on a quand même de la chance d'être dans un pays où, bah, en fait, ils ont déjà toutes ces aides qui leur permettent d'avoir tout ça et tout le monde n'a pas la chance de peut-être d'avoir tout ça. Et je trouve ça super cool qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, même du milieu associatif comme nous, comme on est tous acteurs de tout ça, pour essayer de faire évoluer les choses à notre échelle, bien sûr, mais que des gens se bougent un peu pour faire tout ça, je trouve ça quand même super. Et que on puisse discuter avec des gens comme ça aujourd'hui, c'est top, quoi. Voilà.
Trop bien. Mais merci pour vos réponses à ma petite réflexion. Ça m'a.
Ça va, vous l'avez pas trop mal vécu. Un petit quiz, une petite question.
Non, moi, ça va.
C'est bien. Mais ça permet de s'ouvrir un peu à des choses aussi qu'on n'a pas forcément conscience, je pense. Est-ce que tu veux présenter ?
Non, vas-y, présente tes petites animations. Okay.
Et ben la petite deuxième animation que j'ai prévue pour vous, c'est un petit débat. Parce que je me suis posé la question du fait qu'on allait parler du coup du handicap. Et à chaque fois que moi, personnellement, je parle du handicap, c'est souvent dans le contexte d'un événement sportif. Quand je pense au handicap, comme tu l'as dit, Zoé, tout à l'heure, et ben je pense, allez, hop, c'est les Jeux paralympiques. Et il y a tout ce lien avec le sport qui est pour moi, c'est pas détachable, quoi, dans ma tête. Et je me demandais pourquoi selon vous, on a l'impression que la question d'inclusivité autour du handicap, on la pose surtout autour du monde du sport.
Ouais, super question, je me permets d'y aller. Le sport, là où il a un gros rôle à jouer, c'est dans sa médiatisation. Le sport, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est très très médiatisé en fait. Hein. On voit qu'à la télé, ce qui est dans les événements les plus médiatisés au niveau mondial, c'est les événements sportifs. Donc on aura les Jeux, les JO d'été en premier, on aura les Jeux, les Coupes du Monde de foot pas bien loin derrière. Et du coup, on se rend compte que y a la place de faire passer un message. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas détachable vu de l'extérieur, mais c'est parce qu'en fait, c'est souvent la seule occasion qu'on a de parler du handicap, parce que on a tout un public qui est rassemblé au même moment, et on se dit que s'il faut faire passer un message, c'est ce jour-là. Le seul problème, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est que on est obligé d'attendre ces moments-là. Et du coup, on n'en fait pas un sujet du quotidien. On banalise presque les problématiques jusqu'à ce qu'il y ait des temporalités comme les jeux paras tous les 4 ans, où là, on fait un gros coup de com'. Mais selon moi, c'est juste pas suffisant. Et c'est d'ailleurs un des gros enjeux pour l'avenir.
Mmh. Et encore, je trouve que le gros coup de com' des jeux paras, il est pas si gros que ça, parce que je les trouve souvent quand même un peu oubliés après les JO.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Le coup de com', il est bel et bien là pendant. Maintenant, ce qu'ils attendent surtout, c'est un après. C'est un peu un héritage de de quoi on parle pendant les Jeux. Souvent, les politiques se saisissent beaucoup de la problématique et c'est souvent un bon coup de com' aussi pour eux. Mais derrière, souvent, on se retrouve avec des budgets qui diminuent. On le voit déjà, nous, en sport, hein, que ce soit pour les paras ou pas. Un an après les Jeux de Paris, les budgets alloués au sport sont diminués, sont descendus en flèche. Donc c'est un peu le problème. C'est que en parler, c'est une chose. Derrière, il faut agir. Et c'est là où ça pêche encore.
Et oui, et donc c'est vrai que c'est vraiment une histoire de com'. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'inclusivité des personnes en situation de handicap, tant que ça ne nous touche pas ou tant que ça ne nous concerne pas et qu'il n'y a pas de com' qui est faite autour, forcément, ça passe à la trappe et c'est invisible. Et ne serait-ce que les questions de RQTH, des choses comme ça, on peut peut-être en avoir entendu parler, mais tant qu'on n'a pas quelqu'un proche de nous ou même nous qui sommes confrontés à cette situation, on n'aura jamais vraiment un savoir là-dessus et quelque chose qui nous permet de faire face à ce genre de situation.
Moi, si vous voulez mon avis, c'est un avis très très personnel. Du coup, moi, je suis en reconnaissance d'un trouble du spectre autistique, donc pour moi. Et typiquement, c'est jamais représenté dans les événements sportifs. Et en plus, ça me saoule que les seules occasions où ça puisse être représenté, ce soit les événements sportifs, alors que je fais plein d'autres choses que du sport, quoi. Et c'est dommage qu'on ait que des coups de com', justement, par rapport au sport et pas par rapport à tout le reste. Parce qu'au final, c'est un peu de l'inclusion, mais c'est de l'inclusion que quand ça arrange et qu'il y a une médiatisation. Ce qui fait que y a très très peu de représentation au final, je trouve, pour le milieu du handicap.
Et oui, pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que pour nos événements, on fait beaucoup de com' aussi sur les handicaps, sensibilisation, choses comme ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est tout au long de l'année. Mais c'est vrai qu'il y a un gros coup de com' qui est fait aussi pour l'événement, le jour de l'événement. Et donc forcément, les gens qui veulent venir à l'événement vont prendre connaissance de ça. Et puis ceux qui le découvrent, qui viennent pas à l'événement, ça sera invisible pour eux aussi. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du handicap dans le sport et peu en dehors du sport. Et ça serait une bonne chose aussi que ce soit.
Après, faudrait trouver. Il y a tout ce système de faudrait trouver aussi des moyens d'en parler. Parce que je pense que le sport rend la chose plus abordable. Parce que comme tu disais, Rémi, il y a toute la médiatisation autour du sport. Mais du coup, pour moi, ça rend. Je trouve que ça stigmatise aussi un peu de la même manière que. Quelqu'un de valide voit des athlètes et peu complexé par rapport à des athlètes. Je trouve que quand on voit des athlètes paralympiques, je me réfère beaucoup aux Jeux paralympiques, mais quand on est en situation de handicap et qu'on voit des athlètes paralympiques, on se dit what the fuck, mais je suis quand même un peu une merde parce que lui il arrive à faire ça et pas moi. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée aussi sur cette médiatisation dans le sport.
Ouais. Moi, je te rejoins, sauf que la problématique, elle est très complexe et un des gros enjeux.
Ah, bien sûr.
De mon côté, moi, je le vois un peu comme ça, hein, c'est que on peut pas se dire on combat ces problématiques-là tout seul dans notre coin et un jour, on espère avoir une assez grande gueule pour que tout le monde nous entende. Le problème, c'est qu'on doit réfléchir à combattre ces problématiques-là avec les acteurs du monde, avec tous les acteurs actuels. C'est-à-dire que on peut pas, dans des conseils, par exemple, discuter que entre personnes en situation de handicap. On est obligé de se mettre d'accord avec un peu tout le monde. Et c'est un peu ça le problème, c'est que comment les personnes en situation de handicap peuvent être représentées dans ces instances, qui c'est qui a la voix qui porte le plus au final. Et ça, en fait, on en vient toujours un peu à la même chose. Et là, du coup, pour rebondir un peu sur nous, ce qu'on fait demain, l'événement, on ne le veut pas compétitif, on ne veut pas montrer la facette haut niveau, on en parle parce que ça fait partie intégrante du sport. On sait que le sport, il a plusieurs facettes. Une facette orientée plus performance et puis une facette loisir santé qui prend de plus en plus de place ces dernières années. Mais c'est surtout ça, nous, qu'on veut montrer, c'est que le sport, il est accessible à toutes et à tous, handicap ou non, et il se veut comme un outil d'inclusion en société. Et je pense que c'est aussi grâce à ce genre d'événement qu'on peut le mettre en avant, malgré qu'on utilise le sport comme un outil de communication. Nous, le sport, c'est un moyen d'en parler, mais en fait, on le voit surtout comme un outil de santé, parce que nous, on est des stapsiens, donc c'est un petit peu aussi notre cœur de métier. Mais effectivement, à terme, l'objectif, c'est que ça fasse partie de toutes les discussions et qu'on n'ait même pas à y réfléchir et que ça fasse, que ça soit notre quotidien, en fait, que de penser à tout le monde de la même manière.
Après, je me fais quand même aussi un peu l'avocat du diable. Hein. Mmh. Je suis bien d'accord que des événements comme ce que vous organisez, c'est des événements super. On est obligé d'avoir... c'est important d'avoir de la com. J'ai une formation de graphiste. Je sais que c'est important d'avoir de la com. Et que ça inspire des gens. Ça permet de sensibiliser. Mais je suis obligée de faire un peu l'avocat du diable quand même. Parce que des fois, c'est frustrant d'avoir que des événements sportifs.
Puis ce qui est important aussi, c'est que les associations qui viennent à nos événements, des choses comme ça, elles sont là aussi pour aider les gens qui viennent, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, et qu'ils soient au courant que cette asso, elle existe. Pas la nôtre, mais plutôt l'association Handiréseau 38, par exemple, ou d'autres assos qui accompagnent les gens en situation de handicap. Et à ce moment-là, ça permet aussi, en dehors du sport, de faire un chemin pour parler d'autres choses et d'aider les gens... qui sont dans la détresse, que ce soit des étudiants ou pas d'ailleurs.
Ouais. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus vraiment si j'ai très bien compris, tu disais que peut-être certains parathlètes se sentaient peut-être un peu moins performants, tu disais, je crois.
Non, je disais par exemple, quand toi tu as un handicap et que tu regardes par exemple les parathlètes à la télé, tu peux aussi avoir cette sensation de dire, on a le même handicap et moi je fais rien quoi.
Ouais, carrément.
Par rapport à moi, ça m'inspire.
Ouais.
Tu peux avoir aussi ce truc du moi, je suis pas capable de le faire.
Ouais, carrément. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais je vois ça aussi, du coup, comme tu le disais, comme un truc, moi, qui peut méga inspirer. En fait, je pense que quand t'es à l'hôpital, peut-être que tu viens d'avoir un accident, tu viens de malheureusement te faire amputer quelque part et tu vois quelqu'un qui, en fait, qui est maintenant aussi performant que certains sportifs avec des performances juste extraordinaires, je pense que ça peut en faire rêver plus d'un et en faire. Ça va permettre à certaines personnes peut-être de se relever de certains accidents, du coup via le sport ou via d'autres pratiques. Donc moi, je trouve ça vraiment aussi super. Mais je suis d'accord avec toi que du coup, certaines personnes peuvent peut-être se sentir un peu plus rabaissées. Mais je pense que même dans le sport normal...
Oui, c'est ça, bien sûr.
Je pense que c'est partout, en fait.
C'est partout.
C'est pas que handicap, ouais.
Très bien. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat. On fait une dernière petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Et on arrive déjà vers la fin de notre émission, ça passe super vite, une heure. Donc on va vous rappeler les événements. Bon, le BDE de STAP, c'est pas trop compliqué, c'est demain si vous nous écoutez en direct. C'est demain sur la place principale du campus. À mon avis, vous pouvez pas les rater.
Oui, on sera bien présent, on fera bien du bruit à mon avis. Mmh. Et donc vous allez nous voir.
Mmh, oui, je pense que si vous baladez sur le campus, vous les raterez pas. Oui. Et donc pour vous, Polyred, donc c'est le 26 mars. Est-ce qu'on peut s'informer quelque part pour être un peu plus au courant de ce qui se passe?
Du coup, on a un site internet Polyred pour les inscriptions. Et puis, on a nos réseaux sociaux. Donc, on doit avoir LinkedIn, Instagram et peut-être Facebook, il me semble. Donc, Polyred aussi pour être au courant des différents parcours et de ce qu'on va présenter le jour du raid.
Et donc, vous retrouverez toutes ces informations. On mettra vos liens dans notre podcast. Donc, on a une petite section podcast pour les étudiants relais à l'égalité sur le site de Radio Campus. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir co-animé avec moi. C'était super. Merci beaucoup, Liam, d'avoir fait notre technique. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle apérophonie. Bonne soirée.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !